Un corps découvert hier à Briançon. Il s'agit d'un homme de 46 ans, résident de la Fondation Edith Selzer. Une enquête est ouverte. L'accueil des gens du voyage s'organise dans les Alpes d'Haute-Provence et surtout voit le jour avec des aires permanentes et de grands passages qui seront aménagés, notamment à Oraison, une commune qui voyait son hippodrome occuper plusieurs mois de l'année de façon sauvage. On vit plus longtemps dans les Hautes-Alpes que dans les Alpes de Haute-Provence. L'espérance de vie y est plus élevée selon la dernière étude de l'INSEE. Les Jeux Olympiques d'hiver, ils se dessinent avec Michel Barnier, ancien Premier ministre, en charge désormais de mettre en place le COJO, le comité d'organisation. Il était hier à Marseille pour y rencontrer Jean-Marie Bernard, président des Hautes-Alpes, et Arnaud Murgia, maire de Briançon. En hockey sur glace, le sévère blanchissage subi par les Rapaces de Gap. Les Diables Rouges de Briançon ont remporté la donne 4-0 hier soir. Et ce midi, on prend des degrés, pas en température, mais en alcool à consommer avec modération, cette information, celle de la plus haute distillerie de France qui va bientôt ouvrir à Saint-Véran. C'est un couple qui en est à l'origine et l'altitude donne-t-elle un goût particulier au liqueur ? Reportage. Une enquête ouverte après la découverte d'un corps à Briançon, c'était hier après-midi. La victime, un homme de 46 ans, résident de la fondation Edith Selzer, comme l'explique le parquet de Gap, qui a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Le corps du quadragénaire était immergé dans la Durance sous le pont d'Asfeld. L'enquête confiée au commissariat de Briançon va se poursuivre avec des auditions. Une autopsie aura lieu, termine la procureure Marion Lozac-Meur. C'est un sujet qui pose problème chaque été dans les Alpes d'Haute-Provence, la venue des gens du voyage. Leur passage a fortement augmenté ces dernières années. De 1506 caravanes entre 2004 à 2011, le territoire basalpin en a vu passer plus de 4000 entre 2012 et 2018. Mais le département était dépourvu de schéma d'accueil. Problème résolu désormais avec la définition d'un schéma en 2022 et les travaux qui vont débuter. On est enfin dans la norme française. Écoutez Marc Chapuis, le préfet des Alpes-d'Haute-Provence.
La loi prévoit que dans les départements, on doit avoir des capacités d'accueil, des terrains d'accueil, à la fois pour les grands passages. C'est quoi une aire de grand passage ? Eh bien, c'est un terrain sur lequel on est en capacité d'accueillir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de caravanes, mais aussi pour ce qu'on appelle des aires permanentes d'accueil, c'est-à-dire pour des groupes itinérants. Et donc, on doit être en capacité d'accueillir ces groupes. Alors là, on ne parle pas de grands passages, on parle de quelques familles et d'aires permanentes d'accueil. Et dans le schéma, nous avons prévu de faire 6 aires permanentes d'accueil. Il en existe déjà certaines, mais elles sont plus ou moins adaptées. Et donc, nous sommes en train d'aménager, là aussi, en parallèle de l'aire de grand passage, des aires permanentes d'accueil.
Et vous l'avez entendu, l'accueil des gens du voyage s'organise sur le territoire basalpin. Une aire d'accueil de grand passage va ainsi voir le jour à Oraison, sur le territoire de la DLV Agglo. Les travaux vont commencer la semaine prochaine pour une mise en place dès le mois de juin de 150 places sur 2,8 hectares, sur un terrain à proximité de l'autoroute et éloigné des habitations. Accueillir des gens du voyage, les habitants d'Oraison ont pu se montrer frileux, mais il s'agit de pragmatisme, selon le maire Benoît Gauvin.
Ce qui est simple à comprendre, c'est que tous les ans, nous sommes touchés par l'envahissement de l'hippodrome. Pendant plus d'un mois et demi, voire 2 mois, notre hippodrome a été occupé cette année, ce qui entraîne des détériorations. Et quand les administrés m'interpellaient dans la rue, je leur disais que la seule solution, c'est d'avoir une aire de grand passage dans les Alpes de Haute-Provence. Force est de constater que peu de maires étaient d'accord pour accueillir cette aire. Donc on a pris nos responsabilités avec Camille Gatier, parce que c'est aussi une entente avec Camille Gatier qui récupère, lui, ce qu'on appelle l'aire permanente. Donc on avait, nous, l'obligation en raison de faire 15 places d'aire permanente. Camille devait en faire aussi pour sa ville. Donc on regroupe toutes les aires permanentes à Manosque et Oraison accueillera l'aire de grand passage. C'est du pragmatisme, hein. À un moment, on subit, ça a des coûts pour la commune. On avait ce terrain-là qui pouvait répondre à la solution. Ben, c'est du pragmatisme et le fait de prendre ses responsabilités quand on est élu, tout simplement.
Et cet investissement représente 825 000 euros financés de moitié par l'État, 25% par le conseil départemental qui aménagera aussi la route 4 pour accéder à cette future zone d'accueil. Le dernier quart sera pris en charge par toutes les communautés de communes des Alpes d'Haute-Provence, sauf celle du pays de Haute-Provence, pays de Bannon, qui a refusé la solidarité. Par ailleurs, une autre autre zone d'accueil de grands voyageurs est dans les tuyaux. Elle devra se situer sur la Comcom Provence Alpes Agglomération. Mais il n'y a pas encore d'accord sur le terrain. Dans l'actualité, on vit plus longtemps dans les Hautes-Alpes que dans les Alpes d'Haute-Provence. C'est ce qui ressort de la dernière étude de l'INSEE publiée ce mardi. Elle porte sur l'espérance de vie. Dans les Hautes-Alpes, les femmes ont une espérance de vie de 86,3 ans. C'est le 12e département de France. Dans les Alpes d'Haute-Provence, elles vivent un peu moins longtemps, 86 ans. C'est toutefois plus que les hommes. Les Bas-Alpins ont une espérance de vie à la naissance située à 79,9 ans. C'est 80,7 ans. Pour les Hauts-Alpins. Autre chiffre présenté par l'INSEE, il concerne le salaire dans le privé. Eh bien, sachez qu'on gagne plus dans les Alpes d'Haute-Provence que dans les Hautes-Alpes. C'est la zone du Manosquin qui est la plus rémunératrice, 2391 euros net mensuels, suivi par le bassin dinois, 2125 euros par mois. Puis le Briançonnais, Gap et le petit poussé de nos deux départements et de la région. C'est là où le privé rapporte le moins, 2090 euros net en moyenne par mois. Éducation, Manosque prend à sa charge les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Un engagement jusqu'à la fin de l'année scolaire qui coûtera à la municipalité plus de 51 000 euros. Une aide exceptionnelle, mais elle doit venir épauler 19 familles puisque la censure du gouvernement a bloqué la prise en charge des AESH durant la pause de midi. Michel Barnier n'est plus Premier ministre, mais son engagement pour les JO d'hiver reste après qu'il ait signé la garantie financière. Désormais, le Savoyard est missionné par le gouvernement pour mettre en place le COJO, le comité d'organisation des Jeux. Il était d'ailleurs à Marseille hier au sein de la région pour y rencontrer notamment Renaud Muselier, président de l'hémicycle marseillais, mais aussi Jean-Marie Bernard, président du conseil départemental de Hautes-Alpes et Arnaud Murgia, le maire de Briançon. J'ai hâte de pouvoir présenter l'agenda de travail olympique des prochains mois, a écrit le maire de la cité Vauban sur son compte X. Notez que la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, sera basée sur Marseille. Hockey sur glace, le blanchissage sévère des Rapaces de Gap hier soir par leurs meilleurs ennemis, les Diables Rouges de Briançon. C'est une victoire des Briançonnais 4 à 0. Ils ont 39 points au classement et récupèrent la 10e place aux Rapaces de Gap. 38 points. Les Gapensés sont 5 points devant le dernier Anglet qui a perdu dans le même temps 9 à 0 hier contre Grenoble. L'actualité qui prend de l'altitude et des degrés avec la plus haute distillerie de France qui va bientôt ouvrir le 7 février dans les Hautes-Alpes, plus précisément là où le coq picore les étoiles, c'est-à-dire à Saint-Véran. Niché à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est un couple qui y fera des liqueurs mais aussi de la vodka grâce à des produits du territoire. Reportage d'Ange Dali avec Aurore Valoury.
C'est la plus haute distillerie de France installée à Saint-Véran. C'est un jeune couple qui est à l'origine de ce projet. Lui a passé son enfance au cœur de ces montagnes carracines. Elle y avait une maison. Après avoir travaillé durant une quinzaine d'années dans la restauration, Claire et Laurent Desmarais ont décidé de créer à 2040 mètres d'altitude cette distillerie dans un ancien corps de ferme, explique Laurent, le directeur général.
Il faut savoir que ce projet est né de la pomme de terre. C'est déjà la base de notre projet. Et on s'est dit comment on pourrait valoriser notre pomme de terre qu'on trouve si exceptionnelle. Et en fait, c'est ma femme qui a eu l'idée de se dire on va développer une vodka à base de pomme de terre. Donc le projet est parti de là et on s'est dit mais finalement, on ne va pas se limiter qu'à la pomme de terre. Il faut aussi qu'on crée des gins, qu'on crée des liqueurs. On aura des vodkas, on aura des gins. On aura dans un futur assez proche de la pomme distillée, du whisky, de seigle. Et on aura quelques liqueurs aussi.
Liqueurs, gin ou encore vodka. Ici, l'ambition est de valoriser des produits locaux, souligne Claire, la présidente de la distillerie de Saint-Véran.
Au niveau du sourcing, on aimerait travailler principalement les produits du Queyra et des Hautes-Alpes. Donc aujourd'hui, sur les matières premières, on va travailler la pomme de terre de Seillac. Viendra également la pomme de terre de Saint-Véran. On aura des pommes fruits du bas du département et également du seigle de Seillac. Et en ce qui concerne les botaniques, on travaille avec l'association Ayanga qui est dans les Hautes-Alpes et qui regroupe des producteurs et cueilleurs d'aromates. Et on fait nous-mêmes nos propres cueillettes, et notamment de genièvre, d'hysope, de fleurs de mélèze.
Pour cette distillerie, le couple a souhaité collaborer avec Benjamin Gallet, œnologue et consultant dans le monde des spiritueux. À plus de 2000 mètres d'altitude, les aromates seront moins traumatisés, mais le travail doit parfois se penser différemment, explique le spécialiste.
Par exemple, si on pense à la macération, forcément macérer avec des températures froides, parce que ici dans la distillerie il fait très froid, ça va prendre plus de temps. Par contre, ça va permettre d'avoir un travail plus fin, donc il faut juste anticiper. Et comme on dit souvent dans les spiritueux, l'idéal c'est quand même de prendre son temps. Et après pour la distillation, là par contre c'est plutôt un point positif, parce qu'on a une pression atmosphérique qui est plus faible, et donc du coup on a un point d'ébullition de l'éthanol qui est plus bas. Au niveau de la mer on est à 78 degrés, ici on est plutôt à 72. Donc du coup on va moins traumatiser et moins cuire les aromates potentiellement. C'est une grosse tendance dans les mondes spiritueux de faire des alambics sous vide, et là on a du vide naturel entre guillemets, donc ça c'est plutôt intéressant pour nous.
Si l'ouverture de la distillerie aura lieu le 7 février prochain, une journée portes ouvertes sera proposée le jeudi 6 février.
Et notez que la distillerie sera accessible au public toute l'année avec des visites guidées. Dès 2026, des visites à thème seront proposées, notamment découverte des botaniques locales ou encore dégustation thématique.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.